Mademoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Bonjour à tous. Trafic ferroviaire toujours perturbé entre La Rochelle et Bordeaux. Le mouvement social des agents de SNCF Réseau qui a commencé ce mardi se poursuit encore. Des suppressions sont possibles sur la ligne TER Bordeaux-La Rochelle jusqu'à vendredi matin. Les voyageurs sont invités à vérifier la circulation de leur train sur le site TERSNCF.com. La nouvelle grille de tarifs du bac de l'île d'Aix en débat au département lors de la dernière commission permanente. La vice-présidente du groupe d'opposition au cœur des solidarités, Brigitte Devaux, s'est exprimée à propos des tarifs de la liaison maritime Foura-Aix. La délégation de services publics a été confiée l'an dernier à Keolis. Mais pour Brigitte Devaux, c'est trop cher. Ces prix pénalisent les familles et provoquent une sélection par l'argent, déplore-t-elle.
En fait, on a souligné auprès de nos collègues la tarification qui est complètement discriminatoire vis-à-vis des gens qui n'ont pas des revenus particulièrement élevés, y compris pour les classes moyennes. Une tarification à 22 € pour aller-retour pour un adulte et 17 € pour un enfant, et même le tarif famille conduit à une tarification de 17 € par individu. 18 € ou 17 € pour, parce qu'il y a une fourchette qui est proposée aussi dans cette tarification. Pour un enfant de 4 ans à 15 ans, c'est aberrant. Et on comprend très bien qu'il y ait une volonté du maire, et on la soutient, et on soutient cette volonté de limiter la pression sur cette île, sur sa biodiversité, et éviter un tourisme qui dénature tout simplement cette île. On comprend très bien, mais c'est pas par l'argent. On a la même discussion pour le Pondré. C'est pas par l'argent qu'on doit dissuader d'une fréquentation trop importante.
Une augmentation des tarifs qui reste raisonnable pour Gérard Ponce, vice-président du département.
C'est une augmentation contractuelle qui a été proposée par la délégation, autorisée par les services publics. Si on ne fait pas cette augmentation, si Keolis ne fait pas cette augmentation, nous, on avait dit que le département, on ne paierait pas plus. Donc, c'est le client qui vient sur le bateau qui va payer cette augmentation. Mais nous, département, on n'aurait pas accepté de payer plus. Voilà. C'est pas l'usager qui paye, c'est le département. Et le département ne paiera pas plus. Après, l'augmentation, elle est de 2,546%. C'est pas énorme. 2,5, quoi. L'augmentation, elle est sur la marchandise, sur les vélos et les remorques. Le tarif jeune famille reste le même. L'adulte reste pareil. Et ce qui est important, c'est que l'insulaire paye 0,60. Qui passe tous les jours, c'est 0,60. L'augmentation, elle est pas sur le passager.
Le groupe d'opposition au cœur des solidarités a par ailleurs émis l'idée d'un système de réservation sur Internet qui permettrait un accès à tous sans discrimination, tout en limitant la surfréquentation touristique et qui irait dans le sens de la volonté du maire de l'île d'Aix. Le groupe de gauche s'est abstenu sur les nouveaux tarifs proposés. L'éclairage des deux roues des collégiens vélos trottinettes surveillés de très près par la police municipale de Rochefort. Des contrôles sont effectués en ce moment devant les 4 collèges publics et privés de la ville. Le dernier, c'était ce matin, devant le collège Pierre Loti. Lundi dernier, devant Lafayette, 6 vélos ont été contrôlés. Un jeune cycliste était insuffisamment éclairé. Ses parents recevront un rappel par courrier pour une mise en conformité. Quant aux utilisateurs de trottinettes électriques depuis le 1er septembre 2023, ils doivent être âgés de 14 ans minimum. Il est aussi rappelé que circuler à deux sur une trottinette ou sur un trottoir ou encore à plus de 25 km/h peut valoir une amende, rappelle la ville. À La Rochelle, la municipalité met en place un dispositif de régulation dynamique du trafic au giratoire Odette-Gorin à la sortie du quartier des Minimes direction Étré pour limiter les bouchons en fin d'après-midi. Aux heures de pointe, ce carrefour connaît régulièrement des congestions importante. 4 feux de circulation pilotés en temps réel vont être installés. Grâce à des capteurs Bluetooth, le système adaptera automatiquement les cycles des feux en fonction du trafic. Objectif, réduire les temps d'attente et limiter les remontées de fil. Un cadre stable et durable à la politique d'adaptation au changement climatique, c'est l'esprit de la proposition de loi du député socialiste de Sainte-Fabrice Barusso et son homologue, le député du Pas-de-Calais, Philippe Fay. Un texte qui résulte des travaux de la mission d'information parlementaire qui aura duré 8 mois. Le constat est simple, le coût annuel des catastrophes naturelles a été multiplié par 6 depuis 1980. 2009. Il atteint aujourd'hui près de 3 milliards d'euros par an. Les territoires ruraux, littoraux et ultramarins sont d'ailleurs les plus touchés par le retrait des assureurs et la hausse des primes, ce qui pénalise les ménages les plus modestes. Il s'agit alors pour Fabrice Barusso de changer de paradigme avec un système d'assurance solidaire, responsable et résilient. Fabrice Barusso.
Cette proposition de loi est issue d'un rapport, issu d'une mission de plus de 8 mois sur l'adaptation des territoires au changement climatique. Et c'est tout simplement décliner ces propositions-là pour les rendre concrètes sur le terrain en une proposition de loi qui aborde deux sujets fondamentaux. Inscrire ce qu'on appelle la trace, c'est-à-dire la trajectoire du réchauffement à l'adaptation au changement climatique dans la loi, pour que tous nos documents d'aménagement puissent y faire référence. Et puis surtout, le plus important, adapter le modèle assurantiel qu'on a actuellement pour que ce modèle s'adapte justement à la sinistralité qui sera de plus en plus importante. 3 articles. Le premier, inscrire la trace dans le code de l'environnement. Le second, qui est de ne plus reconstruire à l'identique, ce qui est imposé actuellement dans le code des assurances. Et puis le troisième, c'est d'assurer la pérennité du régime CatNat, catastrophe naturelle, qui est assez unique en France et assez remarquable. Donc cette proposition de loi repose sur ces 3 piliers, effectivement.
Le texte demande aux assureurs de mettre un peu plus la main au portefeuille pour des travaux de prévention et de meilleure protection des habitations.
Très concrètement, c'est permettre aux assureurs de rembourser un petit peu plus que la valeur du bien pour que ce bien soit adapté au changement climatique. Par exemple, une inondation, la maison inonde, on accepte de faire des aménagements dans la maison qui augmentent la valeur de ce bien, et les assureurs peuvent mettre un peu plus, participent concrètement à l'adaptation au changement climatique, et en contrepartie, l'assuré s'engage à rester un petit peu plus longtemps avec son assureur. On sait qu'on ne pourra pas déménager tout le monde, tous les gens qui habitent en bord de côte, tous les gens qui habitent en bord de rivière. Il faudra aussi vivre avec les aléas climatiques et autant adapter au mieux l'habitat, les entreprises. Et ce qu'on propose, en fait, c'est que les assureurs participent à cet effort. On a tendance à reconstruire avec des matériaux usuels qui n'ont pas ces facultés justement d'adaptation au changement climatique. Et c'est ce modèle-là qu'il faut changer. Il faut vraiment prendre en compte cette évolution-là qui s'impose à nous, pour avoir un habitat, des entreprises, des collectivités plus résilientes.
La proposition de loi sera examinée lors de la niche parlementaire du groupe socialiste le 11 décembre prochain. Et Fabrice Barusso d'insister, la protection climatique doit être un droit pour tous, pas un privilège. Il est midi 14 sur Demoiselle, on se retrouve dans un instant.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Oléron se mobilise, recherche un transporteur. L'association caritative oléronaise organise régulièrement des convois humanitaires en Ukraine pour aider la population, les orphelinats et les hôpitaux dans un pays toujours en proie à la guerre. Ces dernières semaines, Oléron se mobilise a fait le plein en dons dans ses locaux à la Caillitière, à Duluth, avec plus d'une trentaine de palettes à transporter. Les particuliers et les entreprises insulaires sont toujours aussi généreux. Éric Epaillard, co-président de l'association.
Nous recevons des dons pour expédier en Ukraine, pour aider la population, les hôpitaux et les orphelinats, enfin un orphelinat du pays là-bas, en guerre. Et nous sommes à la recherche d'un transporteur donc pour acheminer ces dons que nous préparons à Duluth, dans la salle de la Caillitière, où on trie les vêtements, l'alimentaire, les objets pour les enfants, des couches, des objets aussi pour les hôpitaux. Les dons viennent de différents horizons. On a des dons individuels, des gens de l'île d'Oléron, mais on a aussi des entreprises, des supermarchés qui nous offrent des palettes d'eau minérale, des palettes des quantités de biscuits, par exemple, parfois, des entreprises. Et c'est très aléatoire, en fait, c'est pas régulier, c'est au coup par coup. On organise le transport comme on est en train de le faire. Là, on cherche un camion pour le transport quand on a suffisamment de volume pour le remplir. C'est à peu près tous les 6 mois, grosso modo.
Reste maintenant à transporter tous ces dons jusqu'en Pologne. Et pour cela, Oléron se mobilise, a besoin de la générosité d'un transporteur.
On a 35 palettes de disponibles de prêtes là, à expédier. Et nous sommes à la recherche d'un transporteur pour nous aider à cheminer ça en Pologne. En Pologne, parce que on peut pas entrer en Ukraine, c'est un pays en guerre. Les camions de l'Ouest occidentaux, on va dire ça comme ça, qui viennent de, enfin, notre transporteur, devra aller du côté de Cracovie. Donc c'est le 15e hein, transport. À chaque fois, on cherche un transporteur. Alors c'était souvent des transporteurs polonais qui viennent faire des livraisons en France et qui repartent avec nos dons. Nous avons aussi un transporteur français qui nous a fait deux voyages, qui nous a transporté des dons jusqu'à Cracovie. C'est toujours un petit peu compliqué de trouver le transporteur. On maîtrise l'arrivée là-bas, mais en fait, à chaque fois, il faut trouver une entreprise qui accepte de transporter nos affaires.
L'association peut prendre en charge les frais de carburant. Le don de transport peut également être déduit fiscalement. Pour aider, Oléron se mobilise à acheminer tous les dons jusqu'à la frontière polonaise. Une adresse mail, oleronsemobilise@gmail.com et un numéro de téléphone 07 48 15 96 47. Manger de la viande d'ici, c'était l'un des messages forts des 4e assises de l'agriculture et de l'alimentation qui se sont déroulées hier au Palais des Congrès de Rochefort. Parmi les sujets évoqués, un état des lieux des filières viande et lait, les débouchés de la filière bovine, les enjeux socio-économiques et les opportunités. Et justement, il y en a, puisque sur les territoires de la Carreau et la communauté de communes du bassin de Marraine, on produit plus de viande que l'on en consomme. Aude Poineuf est chargée de mission élevage.
Sur notre territoire, on produit plus que ce dont on a besoin. Alors ça, c'est les chiffres de 2020. On produit en viande, de mémoire, 130% de la consommation de ce que le territoire consomme. Donc sur notre territoire, on est excédentaire en production de viande. Je tiens à dire quand même, chiffre à actualiser, on est 5 ans plus tard. Mais on a tout un enjeu de relocalisation en fait, des circuits alimentaires. Pour pouvoir manger de la viande qui est produite sur le territoire, il ne faut pas que des éleveurs, mais il faut aussi des revendeurs, des transformateurs, etc. Et donc c'est là où il y a toute la plus-value de ce projet alimentaire territorial, c'est d'aller appuyer des filières courtes, des outils de transformation, la labellisation, la reconnaissance des producteurs sur les étals, sur le fléchage pour leur point de vente en circuit court, etc. Donc il y a cet enjeu de relocaliser les habitudes alimentaires avec ciblées sur des productions de notre territoire.
Et pour y arriver, rien de tel qu'un atelier de découpe de la viande à proximité. Les élus envisagent aujourd'hui de se rapprocher de la Cara et le site de Saujon pour passer la vitesse supérieure. Bruno Bessaguet, vice-président de la Caro, chargé du PAT.
On en est toujours au modèle économique, à la rentabilité économique, parce qu'on ne veut pas non plus envoyer les éleveurs dans une mauvaise pente. Donc on est en train de mutualiser avec l'atelier de transformation qui est mis en place sur la communauté d'agglo de Royan Atlantique. Et donc on est en train de voir de quelle manière il faut redimensionner l'atelier et refaire une rentabilité économique de ce projet-là avec les éleveurs de l'ensemble de nos territoires. On ne parle plus de faire sur Rochefort parce qu'on a fait l'étude sur Rochefort avec la CCBM et la création d'un nouvel atelier, on n'avait pas la rentabilité économique. Alors on l'a fait il y a déjà quelques temps qu'on l'a fait, après la crise du Covid, avec des coûts énergétiques qui ont beaucoup évolué, qui ont fait qu'il n'y avait pas la rentabilité. Alors aujourd'hui, le prix de la viande, il est différent effectivement d'il y a 2 ans, mais on est méfiant, c'est pas parce que le prix est aujourd'hui qu'il le sera encore dans un an ou plus.
Constat donc important et convaincant, un prix de la viande élevé en ce moment en raison de la baisse du nombre des animaux, une opportunité économique pour les professionnels.
Demoiselle, interview.
Avec nous dans ce studio, Anne Segoy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du collège de gouvernance de l'association 100 pour un toit Pays Rochefortais. Vous êtes avec nous pour parler d'une exposition vente solidaire qui s'ouvre demain à la salle Aurore à Rochefort, à la galerie Aurore. Rappelez-nous déjà ce qu'est l'association 100 pour un toit Pays Rochefortais.
Oui, cette association donc a été créée en 2019. Et nous avons fait le choix d'aider des familles dont la situation est particulièrement critique, c'est-à-dire des familles de migrants qui étaient en France depuis plusieurs années, mais qui avaient été déboutées du droit d'asile et qui se retrouvaient donc sans droit. Nous avons donc décidé de réunir des adhérents donateurs pour financer des hébergements pour ces familles. Le but étant la régularisation, c'est-à-dire que ces familles obtiennent un titre de séjour par la préfecture.
Cette expo-vente, alors, qui s'ouvre demain et s'étale sur une semaine, elle permet de collecter des fonds, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, depuis plusieurs années, depuis 3 ans, nous organisons cette exposition-vente. Nous avons eu la chance de rencontrer des artistes du territoire, professionnels ou amateurs, et qui ont accepté de participer à cette exposition solidaire. Depuis 3 ans, nous avons environ une 20aine d'artistes qui participent chaque année, c'est-à-dire qu'ils apportent leurs œuvres. Ça peut être de la peinture, de la photo, de la sculpture, du dessin, toutes sortes d'arts graphiques que nous exposons à la Galerie Aurore pendant une semaine, donc de vendredi jusqu'au jeudi 4 décembre. Et ces artistes donc proposent leurs œuvres à la vente au profit de notre association.
Vous collectez combien à chaque fois ?
Alors, environ 3 000 euros chaque année depuis 3 ans.
Donc là, l'objectif, c'est de faire aussi bien.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait effectivement un appui important pour notre association en termes d'hébergement de famille. Mais c'est aussi une belle occasion de rencontre entre le milieu associatif, le milieu artistique et puis le public. Et donc l'idée aussi, c'est de se faire connaître, bien sûr, et de se faire rencontrer les gens.
Alors, parlez-nous de ce que vous faites justement par rapport aux familles. Vous aidez combien de familles en ce moment ?
Alors, en ce moment, nous avons en charge 3 familles et nous avons donc, depuis le début de notre existence, pris en charge 5 familles. Et ces 3 familles donc attendent, certaines sont en cours, mais attendent une régularisation. Et les familles qui ont été régularisées, ça a pris quand même 8 ans de présence en France avant de pouvoir obtenir ce fameux titre de séjour qui leur donne enfin le droit de travailler.
Est-ce que c'est plus compliqué qu'avant ?
Alors, bien sûr, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a plus de familles déboutées du droit d'asile et il y a... un ralentissement, on va dire, des délais pour obtenir un titre de séjour pour diverses raisons. Ces familles ne cherchent qu'une chose, c'est à travailler. Ces familles qui sont investies bénévolement dans certaines associations, dont La Boussole, l'épicerie solidaire de Rochefort. Ces familles ont des enfants qui sont scolarisés depuis leur arrivée en France et ont suivi des cours de français à la PIC, au centre de formation, ne demandent effectivement qu'à s'intégrer et à travailler.
Vous parliez de parcours du combattant. Bon, il y a toujours une ligne d'arrivée à la fin ?
Ben, écoutez, oui, on y croit. Et voilà, on les accompagne. On les accompagne dans leur démarche. On les accompagne dans leur dossier à la préfecture. Et voilà, on espère la réussite.
Pour ces 3 familles ?
Pour ces 3 familles, pour la régularisation de ces 3 familles.
L'exposition, sur le plan pratico-pratique, c'est donc demain, c'est ça que ça
Alors, ouvre ? L'exposition commence demain. La mise en place se fait demain matin. Donc l'ouverture, c'est demain après-midi. Il y a un vernissage le soir à 18h. Et après, toute la semaine, nous sommes ouverts. Alors le dimanche et lundi, un petit peu moins, mais toute la journée, sinon le samedi, le mardi, mercredi, jeudi et jeudi, c'est fini.
Et on peut repartir avec une œuvre sous le bras ?
Alors on peut repartir, si les œuvres sont accrochées, on attend la fin de l'expo. Sinon, il y a aussi des œuvres qui sont dans des cartons à dessin et qu'on peut emporter tout de suite. Il y a toutes sortes de prix et toutes sortes de belles choses à venir voir.
Rendez-vous donc à la Galerie Aurore à Rochefort. On passe maintenant aux nouvelles du ciel. Merci beaucoup.
Le temps qu'il fera aujourd'hui avec Météo de la Charente-Maritime. Pour des prévisions locales fiables sur notre département, rendez-vous sur la page Facebook Météo de la Charente-Maritime.
Ça ne va pas s'arranger, Pierre.
Non, ça ne va pas s'arranger. C'est assez couvert en cette mi-journée. On a quelques éclaircies quand même, mais cet après-midi, eh bien, on annonce quelques pluies et donc quelques averses. Au niveau des températures, ça reste quand même très frais, hein. On n'aura pas plus de 6 degrés à Saint-Épon, 7 sur la côte et 8 degrés sur les îles. Pour demain, vendredi, oui, c'est bien vendredi demain, ça s'annonce gris et pluvieux, idem pour samedi, avant un dimanche qui s'annonce plutôt ensoleillé. Et ça fait du bien au moral.
Depuis plus de 60 ans, Cheminée Charrier Artisan RGE vous conseille dans vos besoins de chauffage. Chez Cheminée Charrier, aucun sous-traitant. Techniciens, installateurs, tailleurs de pierre, ramoneurs, commerciaux sont là pour répondre à votre projet et vous apportent un service unique sur le marché local, le sur-mesure. Poussez les portes de notre magasin pour y découvrir poêles, inserts à bois et granulés, cheminées sur-mesure, fabriquées dans nos ateliers à Moise. Plus de 50 modèles exposés en magasin, dont plusieurs en fonctionnement. Cheminée Charrier, 105 avenue du 11 novembre à Rochefort, 05 46 880 770 ou sur cheminée-charrier.fr. Cheminée Charrier, l'artisan de votre belle flambée depuis 3 générations.